Les parts actualités. Bonjour et bienvenue à l'émission Les Parts Actualités. Hélène Denis au micro et en manchette en ce 14 décembre 2017, du bonheur à l'approche des fêtes. Troisième médaille pour Emily Young à la Coupe du monde de paraski de fond. Un deuxième bain dans les CHSLD après les fêtes. Beaucoup d'angoisse, mais beaucoup d'amour à être aidant naturel au Manitoba. Et en entrevue, je recevrai Jean-Denis Mahomet, coordonnateur des programmes Tapage et du travail de milieu Spectre de rue Inc., qui viendra nous parler du projet Tapel en cette période hivernale. Et aussi Luc Fortin, ancien animateur à Canal M, voix officielle d'Ami Télé, animateur aussi à Ami Télé, qui va nous parler de Prête-moi ton regard, un balado, Première Plus d'ici Radio-Canada, une série de promenades en compagnie de Luc Fortin, donc, qui est devenu non-voyant à l'âge de 21 ans. Et un balado, vous savez c'est quoi? Ça peut être aussi un podcast, mais en français, c'est un balado. Alors, on y reviendra avec Luc Fortin un peu plus tard au cours de l'émission. Une nouvelle tirée du journal de Montréal.com, du bonheur à l'approche des fêtes, il faut des nerfs d'acier et un cœur de pierre pour ne pas être ému en déambulant dans les corridors de l'hôpital Sainte-Justine. À une douzaine de jours de Noël, les scènes sont déchirantes. Ce n'est pas encore le Père Noël qui est passé par les centaines de chambres de l'établissement, mais c'est tout comme une visite des joueurs du Canadien de Montréal dans sa chambre, ça ne s'oublie pas. Et ce, peu importe le dossier qu'affiche l'équipe sur la patinoire. Victor Chevalier, un petit bonhomme de 11 ans rempli d'énergie, ne portait plus à terre tellement il était content de rencontrer ses idoles Jonathan Drouin et Charles Hudon. On fait un arrêt à sa chambre de l'unité de médecine pédiatrique au 7e étage pour le saluer et lui remettre un sac rempli de souvenirs. Des présents qui lui ont fait oublier quelques minutes pourquoi il réside à Sainte-Justine depuis 2 semaines et ce que les médecins ont diagnostiqué. Il a récemment appris qu'il est atteint de la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin sans remède définitif. Elle peut revenir en tout temps, cette maladie. « Je viens d'apprendre ça. Je suis déçu de ce diagnostic, mais je suis à la bonne place et entre bonnes mains. Cette rencontre me fait très plaisir. Je suis sous le choc. Je n'en reviens pas d'avoir rencontré mes joueurs préférés », a raconté le jeune partisan depuis son lit. Dans une autre chambre, Julien Houle, 5 ans, n'en croyait pas ses yeux quand il a ouvert la porte. En plus de Drouin et de Hudon, il voyait devant lui Andrew Shaw qui lui tendait sa carte la plus importante de toutes, disait à la blague le numéro 65 du tricolore. Ne faisant ni une ni deux, Julien s'est empressé de déballer son sac de souvenirs et d'étendre les cartes sur son lit avant de sauter dans un fauteuil roulant l'amenant à d'autres tests. C'est un très bel épisode dans une succession de mauvaises nouvelles, a dit la mère du petit garçon, atteint de fibrose kystique. Ça lui lance un message d'espoir dans tous les tests qu'il doit subir. Troisième médaille pour Emily Young à la Coupe du monde de paraski de fond, c'est sur le site de Radio-Canada. Emily Young de Vancouver a récolté la médaille d'argent du 15 km debout à la Coupe du monde de paraski de fond mardi à Canmore. Après des médailles de bronze samedi dimanche, Young décrochait sa troisième médaille en 3 épreuves à cette Coupe du monde. Elle a terminé à 36 secondes de l'athlète neutre NPA Ekaterina Rumianseva qui remportait sa 3e course d'affilée. Comme ce sera le cas des athlètes russes qui seront aux Jeux olympiques de Pyeongchang, les Russes présents en Alberta ne skient pas sous la bannière de leur pays, mais plutôt à titre d'athlètes neutres en préparation des Jeux paralympiques de Pyeongchang. Une autre britanno-colombienne, Nathalie Wilkie, a conclu en quatrième place, tandis que la Québécoise Lynn Marie Bilodeau a fini huitième. Chez les hommes, le Canadien médaillé d'or aux 10 km des Jeux de Sochi, 45 ans, Chris Klebb, a terminé septième aux 15 km. Colin Cameron, qui a remporté sa première épreuve en Coupe du monde en mars dernier à Pyeongchang, a conclu au 14e échelon. Après la sortie du Comité international olympique la semaine dernière, le Comité international paralympique devrait annoncer sa position à propos des athlètes russes sous peu. Rappelons qu'avant les Jeux paralympiques de Rio, l'IPC, donc le Comité international paralympique, avait banni la Russie des Jeux, contrairement au CIO, qui avait refilé cette décision aux fédérations sportives internationales. Et je rejoins au bout du fil Jean-Denis Mahomé, coordonnateur des programmes Tapage et du travail de milieu Spectre de rue Inc. Bonjour, M. Mahomé.
Bonjour, c'est Mahomé avec un N.
Mahomé. Oui. Alors, merci de me reprendre, M. Mahomé. C'est bien important. Alors, donc, avant de nous parler du projet TAPEL, puisqu'on vous a appelé pour ça, sans jeu de mots, parlez-nous donc du programme TAPAGE.
Oui, alors le programme TAPAGE est un programme qui vient en aide aux jeunes de 16 à 30 ans qui sont aux prises avec un grand problème de précarité en leur fournissant du travail, ou bien sur une base ponctuelle à la journée, ou bien sur une base hebdomadaire. Pour des jeunes qui veulent faire un premier pas dans un processus d'insertion socio-professionnelle.
Et vous existez depuis quand même quelques années?
Oui, TAPAGE a été fondé en 2000, alors que l'organisme Spectre de rue, lui, a été fondé en 1995.
Et ça a été fondé dans quel contexte? Comment c'est né ce projet-là?
Le contexte de l'apparition du spectre de rue était en lien avec notamment les problématiques de consommation de drogues injectables dans Centre-Sud. Et éventuellement, la Ville de Montréal avait mandaté l'organisme pour faire une étude pour combattre, le phénomène du squeegeeing dans Centre-Sud, là, les jeunes qui lavent les pare-brises des voitures. Mm-hmm. À l'époque, c'était une problématique plus endémique que maintenant. Donc, la recommandation, ça avait été de mettre sur pied une banque d'emploi spécialisée destinée aux jeunes de la rue. Et c'est dans cette mouvance-là que TAPAGE a vu le jour. Et notre fer de lance, c'est l'assainissement des ruelles dans Centre-Sud. Éventuellement, on a bonifié notre offre d'emploi pour les jeunes avec des partenaires comme l'Office municipal d'habitation de Montréal, pour qui on fait le ménage des terrains et des espaces intérieurs.
Mm-hmm. Et là, parmi vos projets, il y en a un, je ne sais pas s'il est récent, qui s'appelle TAPEL, T-A-P-E-L.
Oui, c'est un jeu de mots sur tapage et l'appel, puisque mm-hmm. nos jeunes partent déneiger les entrées les entrées des logements de personnes dont la mobilité est réduite pour des questions de santé ou d'âge.
Quelle excellente initiative. J'imagine que vous avez été bien occupé ces derniers jours.
Absolument. La neige fait en sorte que plusieurs nouvelles personnes se sont montrées spontanément intéressées à recevoir le service.
Oui. Quels sont les arrondissements desservis?
Ce sont les arrondissements du plateau Mont-Royal et de Ville-Marie. Et par ailleurs, là, je dois insister sur l'excellente implication du plateau Mont-Royal qui avait décidé de mettre sur pied cette initiative-là de mémoire en 2013 conjointement avec le RAPLIC et éventuellement, le contrat, toute la gestion du contrat nous a été confiée.
Le RAPLIC qui est le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec.
Exactement.
Ouais.
Et à l'heure actuelle, on dessert 53 adresses dans le plateau Mont-Royal et 16 adresses dans Ville-Marie.
Et qui en sont les bénéficiaires?
Comme je le disais plus tôt, ce sont des personnes dont la mobilité est réduite aussi bien pour des questions de santé, alors des personnes qui présentent des maladies chroniques ou des handicaps, ou sinon des personnes dont l'âge justifie de recevoir le service. J'imagine que vous voulez savoir comment on peut s'inscrire au programme.
Ben, j'imagine.
Oui,
Oui.
alors c'est en nous appelant. Nous, ce qu'on demande aux personnes qui sont intéressées, c'est de nous fournir une référence qui est en provenance du milieu médical ou d'intervention. Donc, si une personne nous contacte, nous, ce qu'on va lui demander, c'est qu'elle instruise, disons, son ergothérapeute, sa physio, sa travailleuse sociale ou son intervenante de ou son intervenant de maintien en domicile et que cette personne-là nous écrive une lettre ou nous contacte par téléphone
Vous êtes
pour nous
facile
faire
à
la référence.
joindre?
Oui, le numéro de téléphone, c'est le 514-528-1700 au poste 231. Sinon, l'adresse courriel du programme, c'est tapage. TAPAJ, à commercial, spectre de rue en un seul mot, .org.
Parfait.
Je dois dire que puisque intégrer une nouvelle adresse dans nos circuits de déneigement, ça suppose quand même une certaine forme de remue-ménage. Des personnes qui seraient intéressées à recevoir le service dès maintenant se verraient sans doute mises en attente jusqu'au retour des vacances. Question de pouvoir absorber ce que ça représente au plan
Bon,
logistique.
faut être patient, mais ça vaut la peine.
Oui, parce que c'est un service tout à fait gratuit.
Oui, et pensez-vous qu'il soit possible d'étendre ce service extraordinaire à l'ensemble de Montréal?
Ben, ça va prendre des organismes qui soient intéressés à le faire. À l'heure actuelle, on a un partenaire dans Schlager Maisonneuve qui est en train de mettre sur pied un programme tapage et qui éventuellement se montrerait intéressé à l'étendre à Schlager Maisonneuve. J'ai été approché aussi par des fonctionnaires du Sud-Ouest qui évaluent la possibilité de le mettre sur pied et de faire la recherche pour un organisme qui pourrait dispenser le service dans le sud-ouest.
Bon, alors, sans jeu de mots facile, j'espère que ça fera boule de neige.
Oui, merci
Jean-Denis
beaucoup.
Mahoney, coordonnateur des programmes Tapage, qui nous parlait du projet Tapel. Un grand merci, bravo pour cette super initiative.
Merci, Madame Denis. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci, vous de même.
Au revoir.
Les résidents en centre d'hébergement des soins de longue durée, CHSLD, au Bas-Saint-Laurent, auront droit à deux bains par semaine après le temps des fêtes. Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent a créé 13 postes supplémentaires de préposés aux bénéficiaires pour offrir ce service. La direction du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent souhaite l'amélioration de ses soins d'hygiène dès le début de 2018. L'organisation est déjà en train de revoir ses plans d'intervention pour respecter cette nouvelle exigence du ministère de la Santé. Selon la présidente directrice générale, les sommes accordées par le ministère de la Santé pour ce changement sont suffisantes. On va faire pour le mieux avec les sous qui nous sont consentis, mais on pense qu'on est capable de le faire. Le syndicat des professionnels en soins infirmiers et cardio-respiratoires du Bas-Saint-Laurent doute de la capacité du Centre intégré de santé et de services du Bas-Saint-Laurent d'offrir un deuxième bain aux bénéficiaires. On peut promettre un deuxième bain, mais est-ce qu'on va être capable d'avoir le premier? Est-ce qu'on va être capable d'avoir les soins et les services de base en soins infirmiers? Je ne suis pas convaincue. Selon la présidente du syndicat, Aline Boucher, les 13 CHSLD du Bas-Saint-Laurent n'ont pas assez de personnel pour répondre aux besoins de base des bénéficiaires. Dans le nouveliste.ca, Marie-Pierre Julien n'est pas peu fière du chemin parcouru avec Bruce Saint-Hilaire. Du haut de ses 7 ans, le petit bonhomme est le premier gradué des nouveaux cours pour les enfants particuliers mis en place par le club de gymnastique, les Gymnathèques, à l'école Dominique Savio de Saint-Georges-de-Champlain. On monte, on descend, on roule, on bouge, résume en souriant l'entraîneur et étudiante en adaptation scolaire de l'UQTR, instigatrice du projet. Le sport doit être accessible à tous les jeunes et dans la grande région de Shawinigan, il y a un peu moins de ressources pour eux. Ces enfants particuliers vivent avec la trisomie 21, le trouble du spectre de l'autisme ou encore une déficience intellectuelle légère avec un minimum d'autonomie. Les Gymnathèques visent la clientèle de l'école Saint-Jacques où sont concentrés la majorité de ces jeunes. Bruce, lui, vit avec la trisomie 21. À Saint-Boniface, ses parents ne trouvaient pas d'activité pour satisfaire son envie de bouger. On a vu l'annonce des nouveaux cours à l'école Saint-Jacques et tout de suite, ça nous a conquis. C'est intéressant pour le côté social, ça lui fait voir d'autres mondes que son milieu familial, mentionne sa mère Louise Caillé. Les cours se veulent d'abord une initiation à la gymnastique. On adapte le sport en fonction de leurs besoins. On s'assure également que les jeunes avec des besoins particuliers semblables se retrouvent dans les mêmes groupes, assure Marie-Pierre Julien, qui a grandi dans la structure du club Les Gymnathèques. Les Gymnathèques espèrent réussir à organiser au moins 3 cours d'une heure chacun. Plusieurs personnes ont déjà confirmé leur intérêt à rejoindre le club dès janvier. Une soirée d'information est d'ailleurs prévue demain à l'école Dominique Savio entre 18h et 20h. Pour plus de renseignements, Gymnathèque, donc Gymnatech, @globetrotter.net. Je joins quelqu'un que vous connaissez sans doute puisqu'il a été animateur à Canal M. Il s'agit de Luc Fortin, la voix officielle maintenant d'Ami Télé, animateur aussi de Sport sans limite. Bonjour, M. Fortin.
Bonjour, Hélène.
Alors, merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de Prête-moi ton regard, un balado Première Plus d'ici Radio-Canada, une série de promenades en votre compagnie, vous qui êtes devenu non-voyant à l'âge de 21 ans. Alors, vous avez fait des entrevues un peu partout. Je vous ai entendu sur plusieurs tribunes, mais pour ceux et celles qui n'auraient pas encore entendu parler de cette balado, quel est le concept de « Prête-moi ton regard »
Bien, évidemment, on a emprunté le titre à Jim Corcoran.
Oui.
Et là, contrairement à la chanson, on voulait vraiment que le prêt soit dans les deux sens, où la personne avait tous les droits de satisfaire sa curiosité, d'essayer de comprendre un peu ce que je ne vois pas. Mm-hmm. Et vice-versa, moi, j'allais dans des lieux avec eux, des lieux qu'ils avaient choisis pour essayer de voir un peu le visuel, l'ambiance et le pourquoi ces gens-là privilégiaient ces lieux.
C'est ça, il y a une curiosité de part et d'autre.
Oui, oui.
J'ai écouté 2 balados, puis je vais écouter les autres. C'est juste un manque de temps là, qui a fait en sorte que j'ai pu en écouter que 2. Martine Doucet et Michaël Gouin. Mmh. Vraiment très bon, des entrevues qui sont riches en informations, en émotions, en sensations. On a l'impression d'être là avec vous.
Je pense que c'est la beauté d'un balado, c'est qu'on a le temps, un peu comme un documentaire, mais avec un équipement tellement moins lourd que le visuel.
Oui.
Par contre, le devoir du balado, c'est de faire voir par les oreilles. Donc, moi, j'adore. J'adore le balado, je parle pas de cette série-là comme le balado en général. Et ce qui est intéressant, c'est, vous prenez Michaël, vous prenez Martine, les deux avaient une curiosité bien différente.
Oui, c'est vrai.
À mon égard. Et moi, j'avais une curiosité bien différente. Martine, en fait, ce qui m'intéressait, parce qu'elle est une photographe bien connue au Québec, c'était de voir un peu comment elle était capable de restreindre un peu, via son imagination, l'image qu'elle voit pour l'image qu'elle veut voir. Alors, elle m'expliquait comment, moi, les cônes oranges, je les enlève même si je les vois, parce que je sais qu'après, au Photoshop, ils ne seront plus là.
Mm-hmm.
Donc, je vais chercher des éléments et ensuite, je mélange ça dans mon imagination pour offrir ce que j'ai vu dans ma tête sur la photo numérique. Et ça m'a fasciné de voir, et c'est logique quand on y pense, mais si on peut faire tous ces montages-là à l'oreille, de voir que quelqu'un en temps réel pouvait le faire.
Ah oui, puis on apprend quelque chose de très concret. Moi, je l'ai appris en même temps que Martine Doucet. Vous nous parlez de feu sonore en sa présence.
Oui.
Oui.
Oui, parce qu'on a eu la chance de... Parce que, mon travail, en même temps, c'est sûr que je me servais de l'invité pour essayer de faire connaître le monde de la cécité.
Oui, votre réalité à vous.
Oui, puis de le faire connaître à monsieur, madame, tout le monde,
mm-hmm.
en général. Donc, c'est sûr que lorsque j'ai vu qu'on passait à côté d'un feu sonore, J'ai pas été surpris de comprendre qu'elle ne l'avait jamais entendu parce que le bouton d'approche est quand même un peu subtil,
oui.
Mais en même temps, de pouvoir expliquer aux gens combien ça peut nous servir. Là où nous étions, c'était une intersection en T, contrairement à une intersection en croix.
Oui, vous alliez, vous partiez pour vous en alliez traverser pour vous rendre au parc Jeanne-Mance, hein, c'est ça?
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais le problème avec un T, c'est que lorsque tu marches d'un côté où l'intersection n'est pas coupée par la rue, si tu veux traverser, tu ne sais pas où arrêter pour arriver sur le coin opposé.
Oui.
Parce que de ton côté, il n'y a pas de coin.
C'est ça.
D'où l'importance du feu sonore.
On prend conscience de plein de choses grâce à ces promenades-là. Il y en a une, bon, on en parlait tantôt, là, Michael Gouin, vous allez avec lui au marché Jean Talon, et pour lui, là, il est tout énervé là, parce qu'il ne sait pas trop comment vous guider. Là.
Ah, vous avez effectivement, je pense que c'est ce qui ressort de ma rencontre avec Michael.
Mais plus la promenade, ben, je vous coupe, là, mais plus la promenade avance, plus il est content parce qu'il réussit à bien vous donner les informations claires.
Oui. Ouais, ce qui démontre une certaine, bon, peut-être pas anxiété, mais un certain inconfort au début. On sent que le gars se libère de ce poids-là. Et il faut pas avoir ces craintes-là. Tu sais, dans le sens, souvent les gens nous demandent comment on peut aider. Vous posez la question, puis vous vous limitez pas à vos craintes. Et bon, avec Michael, on a vu que ça s'est bien passé.
Oui, tout à fait. Et les autres personnalités que vous avez rencontrées pour ces balados, est-ce que vous pouvez nous les nommer?
Oui, ben j'ai eu la chance de faire un petit bout de chemin avec Philippe Schnob, qui est maintenant président du conseil d'administration de la STM, ancien journaliste à Radio-Canada. Mm-hmm. Claudia Larochelle, qui est auteure, animatrice, qui est férue de littérature.
Oui, vous êtes allé au bar Bélicune avec elle.
C'est vrai, je n'avais jamais été au Bélicune et je ne savais pas du tout qu'il y avait des têtes d'autruche qui
oui.
décoraient la place.
Elle vous en parle.
Oui, et il y a une belle histoire parce qu'il y a une tête d'autruche qui a été kidnappée et il y a un cadre parce que les kidnappeurs l'ont retourné avec des photos de son parcours pendant une semaine. Alors, elle me décrit toutes les photos par où, parce que la tête d'autruche est passée au Stade olympique, elle est passée... C'était probablement des universitaires pour
initiation.
Initiation.
Oui, oui.
Ouais. On se sont dit, on va faire le coup. Donc, des belles rencontres comme
oui.
Kim Twee qui me parle d'un G-string parce qu'on est allé dans son bureau d'avocat où elle a rencontré son mari et me racontait les histoires du potin du bureau.
Les histoires coquines.
Oui, oui, puis en même temps, on était au 40e, donc elle me racontait toute la ville qui était à nos pieds. C'était un beau moment.
Alors, il faut dire que ces balados ont été réalisés, entre autres, par Bastien Gagnon La France, c'est ça son nom?
Tout à fait, oui, Bastien, et une petite amorce de Sylvie également. Sylvie,
Dignard.
Oui, merci.
Oui, alors, si vous dites, Luc, que c'est une amorce, j'imagine qu'il y aura une suite.
Non, en fait, c'est que Sylvie a commencé, puis ensuite, elle a été
quittée
vers un autre contrat. Mais, Hélène, honnêtement, j'aimerais beaucoup qu'il y ait une suite avec moi, mais si j'étais le chef de contenu de Première Plus, je pense que je prêterais... une personne en fauteuil.
Ah oui, ben excellente
pour
idée.
Pour connaître une autre réalité.
C'est vrai.
Donc, alors, il faudrait changer de titre, c'est tout.
Est-ce que vous l'avez suggéré? Ben là, vous le suggérez en ondes ici?
J'en ai parlé un petit peu, mais en même temps, tu ne veux pas nécessairement couper l'herbe sous ton pied. Mais j'en ai discuté au chef de contenu de Première Plus, que
alors,
ça pourrait être une avenue intéressante.
Ben d'ici
et
là.
Et peut-être juste une petite idée. Le site, l'application de Première Plus, c'est pas facile pour les personnes aveugles. Donc, si vous êtes curieux et comme moi, vous êtes aveugle, allez sur votre application là, via le iPhone. Vous tapez dans recherche, prête-moi ton regard, c'est facile, parce que Première Plus, c'est malheureusement pas encore accessible.
Alors, Luc Fortin, un grand merci pour cette entrevue. Bravo pour ce balado. Vraiment, hier, j'envoyais des liens à mes amis, ma famille, parce que je trouve ça trop bon. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation et un très bon temps des fêtes.
Ben, c'est gentil et c'est bien de le partager et tout le monde devrait le faire pour montrer à Radio-Can que le handicap, c'est un sujet que l'on veut traiter et que l'on veut entendre plus souvent.
Merci beaucoup, Luc.
Bonne journée.
Beaucoup d'angoisse, mais beaucoup d'amour. Être aidant naturel au Manitoba. Quelques 8 millions de Canadiens sont aidants naturels, c'est-à-dire qu'ils accompagnent au quotidien un proche dans le besoin en raison, par exemple, d'une maladie chronique, d'une blessure ou d'un handicap. Au Manitoba, ces personnes sont reconnues officiellement par une loi depuis 2011, mais est-ce suffisant? Maria Arenson habite avec son frère Pablo à Winnipeg depuis 7 ans. Pablo est trisomique et doit être accompagné dans ses tâches de tous les jours. Il a besoin d'aide comme un petit garçon pour s'habiller, se laver, se brosser les dents, explique-t-elle. Il ne saurait pas quoi faire, par exemple, pour se préparer à manger d'une manière saine. Il ne peut pas rester seul très longtemps. Cette situation implique une organisation au quotidien pour Maria Arenson, qui est professeure à l'Université de Saint-Boniface. « À tous les jours, je dois me lever pour m'occuper de lui. » L'histoire de Maria et celle de nombreux autres Manitobains qui, comme elle, à un moment de leur vie, deviennent des aidants naturels. Environ 8,1 millions de Canadiens, soit près d'un sur quatre, sont dans cette situation selon le groupe proche aidant au Canada. Et il n'y a pas de profil type. Au Manitoba, il existe plusieurs organismes et groupes de soutien pour les aidants naturels. Un crédit d'impôt de 1 400 $ est aussi disponible pour eux. Quelques 14 000 Manitobains en ont bénéficié en 2015 selon la province. Depuis 2011, ces personnes sont aussi reconnues officiellement par la Loi sur la reconnaissance de l'apport des aidants naturels du Manitoba. Une journée annuelle, le premier mardi d'avril, leur est dédiée. Et pour terminer, le réseau de transport métropolitain RTM a annoncé mardi qu'il offrirait gratuitement l'accès à l'ensemble de ses services pour les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier. Cette offre inclut les services de train de banlieue, d'autobus et de transport adapté pour l'ensemble du réseau. C'est tout pour l'émission Les Paractualités du 14 décembre 2017. Merci à mes invités, Jean-Denis Mahoney, coordonnateur des programmes Tapage et du travail du milieu Spectre de rue, et Luc Fortin, qui nous parlait de Prête-moi ton regard, un balado Première Plus d'ici Radio-Canada. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche et Mathieu Tessier à la mise en onde. Ici Hélène Denis, bonne journée à vous. Et puis, je vous retrouve, non pas lundi, ce sera François Brodeur qui sera là, mardi.